Bonjour, je suis Amélie Cordonnier. Bienvenue dans Secrets d'écriture, le podcast littéraire de la rédaction de Femmes Actuelles. Chaque semaine, un auteur ou une autrice partage avec nous ses secrets d'écriture. Aujourd'hui, nous recevons Cynthia Kafka pour Contre vents et secrets, paru aux éditions L'Archipel le 13 octobre 2022. C'est bien la première fois que nous recevons dans ce studio une écrivaine qui porte le patronyme d'un célèbre écrivain. Est-ce cet illustre nom qui l'a poussée à quitter l'éducation nationale pour embrasser la carrière d'écrivaine ? Cynthia Kafka nous le dira. Si vous avez envie d'air frais et besoin de vous échapper du quotidien, ça tombe bien. Cap sur l'île bretonne de Broavel. C'est le décor que Cynthia Kafka a choisi pour son deuxième roman, qui ne manque ni de charme ni de secret. Vous verrez. Cynthia Kafka va nous lire un passage qu'elle a choisi et nous livrera ensuite quelques-uns de ses secrets d'écriture. Écoutons-la. Bonjour Cynthia Kafka.
Bonjour Amélie.
Je suis ravie de vous recevoir dans Secrets d'écriture, le podcast littéraire de Femmes Actuelles. Nous débutons toujours notre entretien par une traditionnelle question qui a l'air très simple mais qui n'est peut-être pas si évidente. Comment définiriez-vous l'écrivaine que vous êtes ou vos livres en un seul mot?
Alors je dirais empathie. Je m'assois sur un banc pour profiter du soleil, tout en me demandant pour la millième fois de la journée la raison de ma présence ici. Je suis partie sur un coup de tête, dans une sorte de mélange de crise d'adolescence et de la quarantaine. Tout s'est joué en quelques heures, en quelques minutes même. Sous l'effet de la colère, je me suis sentie pousser des ailes. Seulement, maintenant que le rythme se calme, que je n'ai plus rien à faire qu'attendre, mes neurones se réveillent. Ne suis-je pas en train de commettre une terrible erreur ? Mes émotions, à vif, se sont peut-être mélangées dans mon esprit. Je pourrais tout aussi bien repartir en sens inverse jusqu'au parking, remonter dans ma voiture, mettre les clés sur le contact et gommer ces derniers jours et ce projet loufoque du paragraphe de ma vie. Je réécrirais par-dessus, on oublierait tout. Écran blanc. Embarquement pour les îles de Tiennes, Kervolan et Broavel, crie l'employé en charge du contrôle des billets. Ultime hésitation. Devant moi, l'inconnu. Derrière, l'air victorieux de ma mère si je revenais à la raison en même temps qu'à la maison. L'inconnu me terrorise. Pourtant, contre le regard de ma mère, il gagne le bras de fer. Puisque ma vie part à volo, autant monter sur le bateau. Je pose le poids de mon corps et de mes angoisses sur un siège en velours usé du Buséol. Pousse un soupir à fendre les flots. Je ne comprends toujours pas ce qui m'a pris. Tout cela ne me ressemble pas. C'est un enchaînement de situations qui m'a conduite ici, comme si, depuis quelques semaines, un marionnettiste tirait les ficelles de mon destin jusqu'à me pousser à découvrir cette lettre. Un objectif comme bouée de sauvetage ? Moi, je serais vous, je me mettrais dehors ! Vocifère un vieux loup de mer au bonnet à la cousteau vissé sur le sommet du crâne. Je me retourne par curiosité pour découvrir à qui il prodigue ses conseils, mais c'est à moi qu'il s'adresse. Il faut avouer qu'on est peu nombreux sur le bateau. Personne ne se risque à partir en Bretagne en plein mois de mars. De surcroît, sur une île minuscule. À part moi, mais je ne pars pas vraiment en vacances. Je compte donc pour du beurre de nicelle. Je dis ça, c'est pour vous, hein ? Reprend l'homme avec un sourire en coin. Quand on ne connaît pas trop les vagues d'ici, vaut mieux les regarder en face, à l'air libre, plutôt que de les ressentir dans son estomac. C'est souvent elle qui gagne, ma foi. Oh merci, mais ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Après tout, j'ai fait du canoë le long de la Dordogne quand j'avais 20 ans avec Hervé et ça s'est très bien passé. Si vous le dites. Il finit de rouler une cigarette, la colle entre ses lèvres et disparaît dans l'escalier qui mène au pont supérieur. Je sors mes écouteurs, les connecte au Bluetooth de mon téléphone et lance ma playlist intitulée Zénitude. C'est décidé, plus personne ne me dictera ma conduite, encore moins un illustre inconnu. Je vais sortir du Cuséol fraîche et pimpante et mon sourire sera un doigt d'honneur à ce marin de pacotille. La clameur assourdissante des moteurs couvre la musique qui se déverse dans mes oreilles. Je me rapproche de la vitre blanchie par le sel marin et augmente le son pour étouffer mes émotions. Ce passage, il se situe quasiment au début. C'est un passage très important pour moi. Notamment parce que c'est là où on découvre vraiment Charlène. Et quand moi j'ai écrit ce roman, c'était à la base, il faisait partie du premier chapitre. Ensuite, il y a eu beaucoup de changements, mais voilà, c'était vraiment le passage de je suis pas bien à je pars pour faire quelque chose. Charlène, c'est une jeune femme qui se retrouve, alors que sa vie roulait plus ou moins, elle avait ses failles, mais elle se retrouve en fait en plein divorce. Son mari vient de la quitter, elle a été obligée de retourner chez ses parents, avec qui elle ne s'entend pas vraiment, elle le considère comme un échec. Et en arrivant chez ses parents, elle trouve une lettre qui a été écrite des années auparavant à sa mère, et avec une photo, et en fait, elle ne reconnaît pas sa mère, elle ne reconnaît pas la personne qui est décrite dans la lettre, et elle décide, un peu pour se sauver elle-même, de partir sur l'île qui accompagne la lettre dans la photo. Charlène, c'est une femme qui a toujours écouté, qui a toujours voulu obtenir la reconnaissance de ses parents et la reconnaissance de la société en général, qui s'est glissée dans le droit chemin parce que pour faire plaisir aux autres, et qui ne sait pas vraiment qui elle est. Elle a voulu avoir des enfants au départ parce que son mari en voulait, et puis elle s'est retrouvée à pas pouvoir en avoir, et là elle s'est sentie coupable. Donc c'est la culpabilité l'accompagne depuis l'enfance. Elle a des rapports très conflictuels avec sa mère, et elle a jamais vraiment réussi à se faire d'amis, parce qu'elle ne se connaît pas elle-même, en fait. Et elle le dit à un moment donné, moi, ce que je voudrais, c'est devenir amie avec moi-même. Et donc, c'est un personnage qui se sent pleutre, qui pense n'avoir aucun courage, et qui, finalement, quand elle arrive sur cette île, elle pense se fuir, et finalement, elle se trouve. Avec le personnage de Charlène, j'avais à cœur de dire qu'on a tout en nous, la force de croire en nous, d'avoir confiance en qui on est et de se montrer tel qu'on est aux autres. Au tout départ, ce roman, c'était vraiment, j'avais envie de parler de confiance en soi. J'écris aussi des guides pratiques, je suis rédactrice et j'avais écrit un guide pratique sur la confiance en soi, et j'avais, pour ça, j'avais fait un formulaire sur ma page Facebook, j'avais fait passer un questionnaire, il y avait plus de 800 femmes qui m'avaient répondu, et je m'étais retrouvée avec quasiment 800 femmes qui n'avaient aucune confiance en elles. Alors, pas toutes au même niveau, mais et souvent, elles retrouvaient confiance dans le regard de leur mari ou dans le regard de leurs enfants, et jamais dans leur propre regard, en réalité. Et j'avais vraiment envie et besoin de parler de confiance en soi. Et à côté de ça, il y avait aussi cette notion de deuil suite à une fausse couche que j'avais aussi très à cœur de développer un petit peu. Et ces deux sujets se sont liés parce qu'il y a forcément cette grosse perte de confiance en soi quand on n'arrive pas à enfanter, malgré ce que la société nous dicte. Et j'avais vraiment très envie de lier ces deux sujets. Alors, je remercie en premier lieu l'île d'Edic en Bretagne, dans les remerciements et dès le début du roman, parce que c'est sur l'île d'Edic que j'ai écrit ce roman. C'est une toute petite île en Bretagne où il y a 60 habitants, où on voit, qui est vraiment magique, mais je n'ai pas le droit d'en parler, sinon les Ediquais vont me tuer, je crois, mais ils ne veulent pas trop qu'il y ait du monde qui vienne. Et sauf que j'avais envie aussi de me libérer de cette île, qui, moi, affectivement, me touche particulièrement. J'avais envie de prendre de la distance géographique par rapport à ses habitants aussi. Et je trouvais qu'en créant ma propre île, ça donnait un peu plus de facilité pour prendre de la distance par rapport à tout ça. Donc, j'ai créé Broavel. J'ai passé quelques heures. Ça a été long pour trouver son nom, hein, plus long pour trouver le prénom de mon fils, je crois. Mais c'était vraiment de trouver quelque chose qui puisse lui ressembler. Et Broavel en breton, Bro, c'est le pays et Avel, c'est le vent. Et je trouvais que le pays du vent, c'était une île c'était un nom qui lui correspondait parfaitement. L'insularité sur une île, c'est incroyable parce que c'est un huis clos permanent, et donc c'est l'introspection. Les personnages, ils vont se retrouver, ils peuvent pas vraiment en sortir, ou alors une fois par jour avec le bateau, et donc ils se retrouvent un peu sur eux-mêmes à découvrir un endroit et à se découvrir en même temps. Le livre alterne, alors il y a beaucoup plus de chapitres au présent, mais il y a quelques chapitres au passé qui sont disséminés dans le roman. Et c'était important pour moi parce que je voulais pas que le lecteur se dise à la fin « Ah, ok, il y avait tout ça qui était caché ». Je voulais qu'il le découvre au fur et à mesure. Et les passages dans le passé nous permettaient de pas juger trop vite la mère, parce que c'est vrai qu'on a que la voix de Charlène. Dans le roman, il y a tous les chapitres présents de Charlène qui enquête sur son histoire familiale et sur elle et sur elle-même en même temps. Et il y a aussi des chapitres passés qui se passent également à Broavel et qui ont lieu en 1986, à l'époque où sa mère était beaucoup plus jeune. Donc elle atterrit aux Oisillons. Quand j'ai commencé à écrire cette histoire, l'histoire s'appelait Les Oisillons. C'était pour moi, c'était vraiment cette notion de l'endroit où on accueille les oiseaux qui sont tombés du nid et où on les remet un petit peu sur pied. Et les Oisillons, c'est une sorte d'auberge de jeunesse pour les artistes en panne d'inspiration et pour les gens cabossés de la vie qui ont besoin de respiration. Alors, ce qui me plaisait dans l'histoire de cette quête, c'était vraiment plus que l'histoire de sa mère qu'elle doit trouver, c'était son histoire à elle et cette façon qu'on peut avoir. En fait, c'est se dire que n'importe où, elle aurait pu se trouver, prendre du temps pour elle et pour se découvrir, mais que finalement, ici, elle rencontre des gens et que finalement, l'entourage, il est hyper important aussi pour se construire. Alors, les prénoms de mes personnages, ils viennent assez rapidement et ensuite, ils se retrouvent confrontés à la réalité, à savoir est-ce qu'ils vont bien ensemble. Et puis, au fur et à mesure que j'apprends à les découvrir aussi, parce que les prénoms se créent au départ. Et finalement, quand je connais bien mon personnage, par exemple, Jonas s'appelait José. Et José, ça lui allait vraiment pas du tout. Et donc, du coup, j'ai écrit tout le roman et je le regardais. Je me disais, non, ce José, il a vraiment pas une tête à s'appeler José. Et donc, quand on écrit un roman, on a le pouvoir de changer le prénom des personnages. Et donc, il est devenu Jonas. Alors, le secret, il vient, on en entend parler donc très, très rapidement dans le roman. Il n'est finalement dévoilé quasiment que vers la fin. Et j'avais envie de mettre des petites touches, des petits indices au fur et à mesure. Moi, j'aime bien quand je lis un roman partir sur d'autres pistes. Et voilà, donc c'était vraiment histoire de jouer un petit peu. J'ai joué aussi avec moi parce que le secret final, il m'a été dévoilé qu'assez tard dans l'écriture. Donc voilà, c'était vraiment... vraiment, encore une fois, je pense que ce secret, ce n'est pas le vrai but de ce roman. Ce n'est pas un roman d'intrigue ou à grand suspense, mais qu'il était important pour que Charlène apprenne vraiment à découvrir qui elle est. Le secret que recherche Charlène, c'est le secret de sa mère. Et c'est ce qu'elle va plus ou moins chercher au tout départ, mais ce qu'elle abandonne au bout d'un moment parce qu'elle veut aussi se concentrer sur elle. Donc le roman s'intitule « Contrevents et secrets » et au début, je voulais l'appeler « Contrevents et marées ». Sauf que ça existe déjà. Donc, il faut savoir que « Contrevents et marées », c'est la devise officielle de l'île d'Édic en Bretagne. Et donc j'avais envie de donner une autre devise à mon île à moi, à Broavel. Et on partait sur quelque chose autour du secret. J'en ai discuté avec mon éditrice, avec tous les copains autour, en disant je veux que ça exactement. J'aime beaucoup en fait quand les mots ont des consonances et donc contre vents et marées. Je voulais que ça garde le même nombre de syllabes et c'est devenu contre vents et secrets. Et je crois que c'est encore mieux. Sinon c'était sous le vent de. Mais j'avais peur qu'on me chante comme le précédent. C'est je suis venue te dire que tout le monde me chante la chanson de Gainsbourg. J'avais peur qu'on me chante du Céline Dion et du Garou avec en l'appelant sous le vent. Oui, Kafka, c'est un nom plutôt sympa à porter quand on écrit des romans. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai épousé mon mari, parce que je trouvais que Kafka, ça ferait très joli sur des couvertures de romans. C'est vrai que quand je suis sur les salons, les gens s'arrêtent toujours sur mon nom en me demandant si je suis de la famille de Franz Kafka. Et j'ai eu du coup envie de faire un petit clin d'œil. Et au tout début du roman, la lettre s'échappe d'un livre et c'est La métamorphose de Kafka. Alors, quand j'ai choisi mon mari, j'étais professeure des écoles, oui, mais j'ai toujours eu envie d'écrire. J'avais déjà commencé à écrire, mais peut-être que ça m'a donné, par rapport à mon nom de famille, à mon nom de jeune fille, peut-être que ça m'a donné la confiance en moi pour écrire vraiment un roman, on ne sait pas. Alors, quand j'étais petite, je voulais devenir patineuse artistique, maîtresse d'école et écrivain. J'étais tellement nulle sur de la glace que j'ai très vite abandonné. Mais je suis devenue enseignante pendant quelques années. Et puis, j'avais toujours dit que le jour où le métier aurait raison de moi, je m'en irais pour pas faire subir aux élèves. Voilà, on a tous eu une maîtresse amère et qui en avait un petit peu marre. Moi, je voulais pas du tout être celle-là. J'avais ouvert un blog en 2011 qui m'a ouvert énormément de portes, notamment celle de maison d'édition pour écrire des guides pratiques et ce genre de choses. Et puis, j'avais toujours dans l'idée d'écrire un roman. Et un jour, je me suis dit, on a déménagé en Dordogne. J'avais beaucoup de temps libre parce que j'avais pas d'amis. Et du coup, je me suis créé des amis et j'ai décidé de commencer à vraiment à écrire des romans. Alors, il y a pas vraiment c'est pas la même pression sur le premier roman et sur le second roman. En fait, au tout début, je me suis auto-éditée et j'ai écrit d'autres romans qui existent encore, mais j'avais pas de pression en fait, puisque j'avais le public que je me choisissais. Enfin, plus ou moins, c'était ma communauté et c'est tout. C'est vrai que le premier roman, il a été beaucoup plus largement diffusé et que ça met une autre forme de pression. Et en écrivant ce second, il y a cette pression de est-ce que ça va plaire aussi. J'ai eu quasiment que des très beaux retours sur Je suis venue te dire et j'ai forcément peur de décevoir, mais je crois que c'est une pression qui ne me quittera jamais. Ça doit être lié au syndrome de l'imposteur et il faut juste faire avec, en fait.
Si vous le voulez bien, Cynthia Kafka, j'aimerais que vous répondiez maintenant à notre interview du Tac au Tac. Êtes-vous une écrivaine diurne ou nocturne ?
Nocturne.
De la semaine ou du week-end ?
Les deux.
Plutôt canapé, lit ou bureau ?
Canapé sous la pergola.
Quelle chance. Solitude ou bistrot ?
Solitude.
Carnet ou ordinateur ?
Carnet, ordinateur, notes vocales, logiciel, tout. Le bordel.
Robert ou Larousse.fr ?
Les deux, plus le dictionnaire des synonymes, je suis correctrice.
Première ou troisième personne du singulier ?
J'essaye la troisième, mais je reviens toujours à la première.
C'est plus facile pour vous ?
J'adore l'écriture à la troisième personne, je la trouve hyper classe. Mais en fait, je n'arrive pas à rentrer dans les émotions des personnages.
Et en disant « je », ça vous semble plus évident.
Oui.
Présent ou passé ?
Présent.
Whisky ou café ?
Café. Trop de café.
Chocolat ou cigarette ?
Trop de chocolat.
Et musique ou silence ?
Silence.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'écrire ce roman dans un état second ? Écrire un deuxième roman dans un état second, ça serait pas mal d'ailleurs. Et vous avez le droit d'entendre état second comme vous le souhaitez.
Alors, j'écris souvent tout dans un état second. C'est-à-dire que j'écris, je sais que je suis là, et le lendemain, je relis. Et je me dis, waouh, c'est hyper bien ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ça arrive.
Pour vous, qu'est-ce qu'une journée d'écriture réussie ?
C'est une journée où j'ai pu passer du temps avec mes personnages.
Est-ce que vous écrivez tous les jours aussi longtemps ? Comment ça se passe, en fait ?
Ça dépend vraiment des jours. Il y a certains moments où je n'ai pas du tout le temps et où je vais m'astreindre quand même à écrire un petit peu pour rester dans l'histoire. Et il y a des jours où je peux écrire 10 heures d'affilée.
Nous avons une question traditionnelle dans ce podcast qui est « Qui est votre premier lecteur ?» Mais j'ai eu des pistes avec les remerciements, donc c'est une lectrice, je crois, pour vous.
Alors, il y a une différence. Je pense que c'est Valérie qui est citée puisque c'est la première bêta lectrice. Mais j'ai aussi mon amie Isabelle qui, elle, lit du pitch jusqu'à toutes les versions, c'est-à-dire les 437 versions de chaque roman à peu près.
Donc vous avez toute confiance en elle ?
Oui.
Est-ce qu'il lui arrive de vous faire des retours qui vont pouvoir influer sur votre travail ?
Oui. Oui, mon éditrice, des fois, elle trouve ça un petit peu compliqué parce que j'ai en fait 4 copains qui peuvent faire changer quelque chose dans le roman ou pas. Donc, il faut réussir à composer avec ça. C'est-à-dire que je vais appeler mon éditrice paniquée en lui disant « Oui, mais tu te rends pas compte, Geoffrey, il a dit que ça n'allait pas. » Et elle doit me dire « Si, c'est bon, ça va, on garde. »
Et alors, quel est l'intérêt en fait de faire appel comme ça à des gens que vous aimez pour avoir leur regard ?
Parce que j'aime leur façon d'écrire et que pour moi, c'est aussi important de voir leur façon de leur retour déjà par rapport à ce roman. Ils sont plutôt objectifs et que quand ils n'aiment pas, ça me permet soit de changer, soit d'assumer ce que moi, j'ai écrit.
Donc, d'y voir plus clair, en fait, avec votre propre écriture. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous utilisiez et le Larousse et le Larousse.fr et les dictionnaires des synonymes. Vous nous avez même dit que vous étiez correctrice. Est-ce que vous avez quand même une faute d'orthographe qui colle à votre stylo ?
Faut toujours que je vérifie l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir.
Est-ce qu'il y a un mot que vous détestez et que vous n'employez jamais ?
Non.
Est-ce qu'il y a un mot alors que vous préférez utiliser ?
Il y en a plein.
Par exemple ?
Fil de feriste, j'adore. Je ne peux pas le mettre dans tous les romans, mais j'essaye.
Est-ce que vous avez un tic d'écriture ? Une formule qui revient souvent sous votre clavier et que vous devez chasser.
Mais en fait, c'est bizarre parce que le tic d'écriture, il change selon les romans.
Alors pour celui-ci, par exemple, c'était lequel ?
Petit. J'avais dû écrire à peu près 647 fois le mot petit dans ce roman. Je ne sais pas pourquoi, c'est vrai. Hein. Il a fallu que je les repasse tous parce qu'il y avait écrit petit partout.
Quel est le livre qui a marqué votre enfance ?
Fifi Brin d'Acier.
Et pour quelle raison ?
C'était le livre qui était chez ma grand-mère. Je dormais chez elle tous les mardis soirs. Et tous les mardis soirs, pendant 10 ans, on m'a lu Fifi Brin d'Acier. Et ensuite, j'ai lu Fifi Brin d'Acier.
Est-ce qu'il y a un livre qui a pu vous faire pleurer ?
Oui, plein. Tous. Je crois que celui sur lequel j'ai le plus pleuré, c'est Love Story. Je devais avoir 16 ou 17 ans.
Avec quel écrivain vivant ou mort vous aimeriez dîner, Cynthia Kafka ?
J'ai la chance de manger et de dîner avec déjà pas mal d'auteurs vivants. Donc, peut-être avec Franz Kafka pour discuter un petit peu avec lui. Ça pourrait faire un joli podcast, Kafka et Kafka, si on le ressort.
Ah, ça, c'est sûr. Et puis surtout, si vous lui dites qu'en fait, il a eu une incidence sur le choix de votre mari.
Oui.
Ça le ferait rire, ça, c'est certain. Cynthia, vous avez un joli tatouage sur votre bras. Est-ce que c'est un phare ? Est-ce que vous pouvez nous le décrire ?
Oui, absolument. Alors, j'ai une vraie passion pour les phares depuis toujours. Et ce phare, en fait, il a été fait, pour moi, c'était le phare des Dicks. Et quand on a commencé à chercher la couverture pour Contrevents et Secrets, j'ai envoyé ce tatouage à mon éditrice en lui disant « c'est ça que je veux pour la couverture ».
Et donc, c'est important pour vous, quand vous avez terminé un roman, de l'écrire sur votre peau, si je puis dire ?
Alors, celui-là, je l'avais fait avant, mais c'est vrai que quand sur la couverture, il y a un petit signe distinctif, en fait, c'est moi qui demande ces signes par rapport à ce que j'ai envie, à ce que chaque roman représente pour moi. Et j'ai écrit 4 romans et il y a 4 signes là sur moi.
Est-ce que vous avez débuté l'écriture de votre prochain roman ?
Oui.
Alors, on a hâte de le découvrir, mais en attendant, c'est celui-là qu'on va lire, Contrevents et Secrets.
Tout à fait.
Et notre dernière question, Cynthia Kafka, est-ce que vous nous avez confié tous vos secrets d'écriture ou est-ce que vous en avez gardé quelques-uns pour vous ?
Je pense qu'on pourrait encore discuter pendant 3 heures et qu'il faut arrêter ce podcast à un moment donné, mais non, j'en ai encore certainement plein.
Eh bien, un grand merci en tout cas.
Merci à vous.
Merci à Cynthia Kafka et aux éditions L'Archipel. Je rappelle que Contre vents et secrets, son deuxième roman, a paru le 13 août 2022. Si ce podcast vous a plu, ce que j'espère vivement, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous laisser vos commentaires. Et puis pour découvrir de nouveaux secrets et les coups de cœur de la rédaction, rendez-vous en kiosque ou sur le site femmeactuelle.fr. À bientôt !